Bonjour et bienvenue dans ce débat entre deux tours des élections législatives, débat sur la seconde circonscription des Hautes-Alpes. À mes côtés, Anna Fréjus d'Alpes et Midi. Bonjour Anna.
Bonjour.
Et Fabrice Margaillan, directeur du Dauphiné libéré dans les Hautes-Alpes. Bonjour.
Bonjour.
Et en face à face, deux candidats, Louis Albran pour le Rassemblement National. Bonjour,
bonjour
Monsieur Albran. Et Valérie Rossi pour le Nouveau Front Populaire. Bonjour Madame Rossi.
Bonjour.
On va rappeler les résultats obtenus au premier tour. Louis Albran, vous êtes arrivé en tête avec 33,88% des suffrages exprimés. Et derrière, Valérie Rossi, 32,70% avec très peu d'écart entre vous, 454 voix d'écart. Une question tout d'abord à Louis Albran. On vous a vu au fil de votre carrière politique aux côtés de Christine Boutin, ensuite demander l'investiture La République En Marche, désormais au sein du Rassemblement National. Est-ce que ça veut dire que vous êtes Macron compatible ?
Moi, je suis compatible avec beaucoup de choses. J'ai commencé ma carrière de médecin. Ensuite, j'ai fait des travaux à la Columbia University à New York sur la drogue. J'ai démontré que la drogue avec le professeur Naas pouvait faciliter le passage à la schizophrénie. Donc, ça a attiré l'attention de Simone Veil qui m'a pris son cabinet. Vous voyez, à l'époque, j'étais donc classé giscardien. Et ensuite, j'ai fait du cabinet pour les prisons avec Badinter, puis Chalandon, puis Rachida Dati. Et quand Rachida Dati m'a vidé, parce que j'avais fait un rapport sur les prisons qui n'a pas plu, le soir même, Madame Boutin, qui aimait les prisons, m'a pris son cabinet. Voilà.
Donc vous êtes Macron compatible.
Politiquement, je suis un humaniste. Et là, je suis allé au RN parce que je pense qu'il y a un risque civilisationnel. Moi, je viens en région parisienne et je vois les dégâts.
Vous vivez en région parisienne?
Une partie de l'année. Je viens, puisque je suis encore... J'étais jusqu'à quelque temps médecin en chef des Invalides. Donc j'ai créé en plus une association pour des handicapés. J'ai dirigé un centre pour handicapés que j'ai réinséré à Ivry et j'ai vu comment les trafiquants de drogue, des tarterets à côté venaient pourrir mes jeunes, etc. Et je pense qu'il y a un risque civilisationnel dû à l'immigration.
Vous défendrez les Hautes-Alpes ou la région parisienne ?
Je défendrai les Hautes-Alpes. Vous savez, j'ai retrouvé hier, en 85 déjà, j'étais candidat à l'Argentière pour les cantonales à l'époque et j'avais battu le père de M. Giraud, Auguste Giraud. Donc, j'avais 25 ans. C'était l'époque où Péchiné fermait. J'avais fait un accord avec Péchiné de 7 milliards, puis ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai été toute ma carrière conseiller municipal de Saint-Grépin. Je suis un Walpin enraciné. Je cultive ma vigne encore à Saint-Grépin. Je ne suis pas un Parisien.
Valérie Rossi, une question également pour vous. Sur les réseaux sociaux, Louis Albran disait de vous hier, il faut vous battre pour éviter que le Front Populaire qui a dans ses rangs des candidats fichés S dont la formule est « mort aux flics » qui font l'apologie du terrorisme et de l'islamo-gauchisme.
Oui, quelle est la question ?
Quelle est la question ? Donc vous avez dans vos rangs, au sein du nouveau Front Populaire, des candidats fichés S dont la formule est « mort aux flics ».
Non. Absolument pas. Nous sommes un parti, le Nouveau Front Populaire, qui rassemble. Le NFP est un parti qui rassemble. Nous vomissons toutes les idées et toutes les convictions islamophobes, antisémites. Donc non, nous n'avons pas du tout ce genre d'attitude.
Êtes-vous Macron compatible ? On sait que vous avez accompagné pendant beaucoup d'années Joël Giraud. Est-ce que vous êtes Macron compatible ?
Alors, moi, j'ai aucun problème pour parler de ça. Je suis une femme de gauche. J'étais longtemps encartée au Parti radical de gauche, d'ailleurs aux côtés de M. Joël Giraud. J'ai été séduite par l'aventure En Marche. Je trouvais qu'il y avait un œcuménisme intéressant, une volonté de rassembler au-delà de certaines différences. Donc j'ai adhéré, je dirais, à ce principe jusqu'au jour où bien je me suis sentie trahie, je veux dire, par le côté trop libéral et trop tourné vers la droite de cette nouvelle direction, enfin de ce nouveau gouvernement. Et donc je suis revenue à mes amours et à mes convictions profondes.
Alors, on démarre ce débat avec ce premier thème, c'est le pouvoir d'achat. Sur la deuxième circonscription des Hautes-Alpes, 14,2% de la population vit sous le seuil de pauvreté contre 14,5% en France métropolitaine. Fabrice.
Le pouvoir d'achat est une préoccupation des Français et des Hauts-Alpins. On peut vivre mieux, oui, mais comment ? Quelles sont vos propositions ?
Quelle est votre mesure phare quant à cette question ? Je pose la question à Louis Albran.
Bien, c'est le programme du RN, hein, de diminuer la TVA sur les produits de première nécessité, et puis surtout, dans premier temps, sur l'électricité, le gaz. Ben, je vis à Saint-Grépin, je vais souvent le matin prendre mon café chez des personnes âgées, des amis de ma mère qui est décédée, mais qui ont 80, 75 ans, qui ont des retraites agricoles de quelques centaines d'euros, et qui, chaque fois qu'elle quitte une pièce, éteignent la lampe pour économiser l'électricité. Et ce qui est scandaleux, moi je suis pour la préférence nationale, c'est de voir que n'importe quel étranger qui arrive, qui n'a pas travaillé une heure en France, a l'ASPA, l'allocation spécifique personne âgée, supérieure à 1000 euros, alors que ces femmes-là qui ont élevé parfois 6-7 gosses, qui ont travaillé toute leur vie, ont une retraite misérable. Donc je suis pour la préférence nationale.
Je reviens quand même sur cette question. Vous le dites, hein, on va baisser la TVA à 5,5%. C'est l'un des thèmes de campagne du Rassemblement National sur les carburants. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas permis. C'est illégal.
Il faut l'autorisation de l'Europe.
Il faut l'autorisation. Oui, exactement, fait, l'autorisation de l'Europe.
Oui. Alors, mais vous savez, moi, j'ai participé, je vous l'ai dit, à beaucoup de cabinets ministériels. Donc, j'ai vu très jeune qu'il y a le programme politique et après, il y a ce qu'on appelle la réelle politique.
Et donc, la réelle politique vous dit non?
Oui, on fera ce qu'on peut. Ça, c'est vrai pour tous les partis. Il y a la réelle politique. Après, tout est négociation. Mais enfin, la France est quand même forte pour négocier avec l'Europe parce que on lit beaucoup que sans la France, l'Europe est terminée. Hein.
Donc on ne pourra pas revenir, vous le savez, on ne pourra pas revenir sur cette TVA.
On verra.
Votre mesure.
Mes collègues qui sont au cabinet des finances négocieront ça.
Le RN souhaite aussi, sur un point du programme, exonérer d'impôts sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans. Tous, sans condition de revenu, qu'ils soient ouvriers ou qu'ils soient cadres. La mesure, elle est égalitaire, elle n'est pas équitable.
Oui, parce qu'on peut dire qu'un jeune broker, comme on appelle ça, qui travaille dans la bourse et qui gagne très bien leur vie, ne payera pas d'impôts, tout comme un jeune ouvrier. Voilà, il y a cet argument-là. Hein. Oui, d'accord.
Et donc ?
On verra.
Mais on verra quoi ?
On verra, on l'appliquera, puis ça s'appliquera pendant un moment, puis c'est toute une politique économique qui va changer. Voilà.
Valérie Rossi, du côté du Front Populaire, par rapport aux mesures de pouvoir d'achat, comme le disait Fabrice, on veut mieux vivre, oui, mais on vit mieux comment ?
Alors, si vous voulez, nous, dans le programme du nouveau Front Populaire, il y a des mesures d'urgence que nous avons décidé de prendre tout de suite dès le 8 juillet, dans les 15 premiers jours qui suivront les élections. Et l'état d'urgence sociale est une des premières décisions que nous allons prendre, voilà, une des premières actions. Alors en matière de pouvoir d'achat, la première des choses, c'est pour nous d'augmenter les salaires par le passage du SMIC à 1600 euros net. C'est une des quelques propositions, mais moi je voudrais insister sur le fait que je travaille moi dans l'insertion par l'activité économique. Je côtoie mes concitoyens tous les jours. Je rencontre des personnes qui sont en recherche d'emploi tous les jours et qui vivent avec trois fois rien. Le SMIC aujourd'hui, c'est même plus décent, quoi. Donc, nous proposons un SMIC à 1600 euros net.
Mais comment on le finance, tout ça ? Ça inquiète, justement, le patronat. Et quand je parle du patronat, je parle notamment de l'UDE 04, de l'UPE 05. Cette mesure à 1600 euros net, ça veut dire quoi, en fait ? On va être payé au SMIC à 1600 euros net et ceux qui sont juste au-dessus ?
Ben, de toute façon, quand on est payé plus... on dépense plus. Donc il y a quelque chose de vertueux, c'est un cercle vertueux, on réinjecte dans l'économie locale.
Ou on met plus de bas de laine.
Non. Non, le but là, enfin, sincèrement, pour les salaires du SMIC, c'est vraiment de réinjecter dans l'économie locale, quoi. Et nous, on finance ça avec, des taxes sur les super profits, des bénéfices sur les multinationales, la réhabilitation, si je peux dire, de l'impôt de l'ISF, voilà, notamment donc par des recettes qui viennent de ceux qui des plus riches.
Dans votre... Oui.
Pardon, madame aussi. Mais cette revalorisation du SMIC, est-ce qu'elle n'aura pas un effet induit ? Est-ce que vous l'avez calculé à terme aussi sur le montant des allocations chômage, qui de fait seront revalorisées aussi ? Est-ce que tout ça, vous l'avez parfaitement budgété ?
Le programme du nouveau Front Populaire a été validé par plus de 300 économistes, dont certains de renom. Et toutes les dispositions, toutes les mesures que nous proposons ont toutes été validées de ce point de vue-là. Donc moi, je n'ai aucun souci là-dessus.
Une autre mesure aussi du nouveau Front Populaire, revenir sur les heures supplémentaires soumises à cotisation. C'est une mesure qui porte quand même sur du pouvoir d'achat.
Oui. Mais du coup, effectivement, après, c'est quand on gagne plus, eh ben, il faut aussi que ça se, je dirais que ça se repartage, quoi. Je veux dire, c'est une histoire de d'équité et d'égalité.
On poursuit ce débat après le pouvoir d'achat. L'un des thèmes qui a davantage préoccupé, ce sont les retraites, avec du flou qui existe encore autour de l'âge légal. À quel âge doit-on partir à la retraite? Le Front populaire, droit à la retraite à 60 ans avec 43 années de cotisation. Le Rassemblement national, retraite à 60 ans. Au départ, au final, ça a été repoussé à 62 ans avec un taux plein de 42 annuités, 40 pour ceux qui ont travaillé avant 20 ans. Et cette question, Anna d'Alpémidi.
Oui, on se demandait comment vous comptiez financer ces différents plans retraite.
Louis Albrand. Oui, 60 ans pour ceux qui ont commencé très jeunes.
Hein, c'est ça. 60 ans ouais, pour que ceux ouais. qui ont 40 annuités pour ouais. ceux qui ont travaillé avant 20 ouais, ans.
Ouais, ouais. Je reviens là au programme du RN en pensant qu'on fera des économies par ailleurs. Hein. Nous avons une immigration, on fera des économies. Si déjà on ne garde pas en prison les 40% de prisonniers étrangers qu'on les ravonne dans leur pays, ça fait des économies. Il y a moyen de faire pas mal d'économies.
Hein. Donc vous financez par l'immigration?
Par une partie d'économies sur l'immigration, mais d'autres économies.
Lesquelles?
Il y a toujours des économies à faire, il y a des niches fiscales, il y a des avantages fiscaux, par exemple, pour les architectes, pour je ne sais plus quelle profession. Il y a des niches fiscales qu'on va supprimer.
Lesquelles?
Elles sont, je ne les ai pas par cœur, elles sont dans le programme, là, je les ai lues.
Mais vous allez le défendre, excusez-moi Louis Albrand, vous allez le défendre, ce programme du Rassemblement National? Ce programme du Rassemblement National, vous allez le défendre? Je ne vous en pas forcément convaincu.
Mais c'est-à-dire que, politiquement, savez-vous qui sera Premier ministre demain? Moi, je ne sais pas. Hein. J'espère que ce sera M. Bardella, mais enfin, on est quand même en pleine incertitude politique. Le président Macron l'a joué les pompiers pyromanes. Hein. La France peut se trouver demain. Alors on dit on mettra un haut fonctionnaire, un type du Trésor ou un ancien général. On ne sait pas. Hein. Regardez, nous sommes très proches, Madame Rossi et moi, peut-être ça sera pareil sur le plan national. Hein. Donc, il n'y aura pas une majorité pour nommer un Premier ministre. Macron devra nommer quelqu'un. Quelle politique économique il va faire? On ne sait pas. Hein.
Vous êtes très proche avec Valérie Rossi, c'est-à-dire au niveau des idées?
Non, je suis très proche au niveau des résultats. On est pratiquement ex aequo. Hein. Elle a un point ou deux de moins que moi. D'ailleurs, une partie de la nuit, je pensais qu'elle était devant. J'ai appris ce matin qu'elle... Voilà, donc on est... Vous voyez, il y a quand même deux blocs. Voilà, je vous dis, Macron s'est suicidé. Parce que je pense qu'il a eu, ça c'est le psychiatre qui parle, il a eu un coup de déprime, et puis un coup de mégalomanie, il s'est dit, de toute façon, les Français vont venir vers moi, et il s'est suicidé en public, bon, ça existe, des suicides en public. Et donc maintenant, et c'est une forme de chaos politique, hein. Il y a deux forces, il y a la force de Mme Rossi, il y a la force de mon parti, et voilà. Alors vous dire demain quelle politique sera appliquée, bon, la politique du RN, sur le plan économique, elle est réaliste, hein. Elle est réaliste. Raisonnable et réaliste, voilà.
Mais enfin, on appelle les gens aux urnes. On a besoin aussi pour
oui, d'accord,
pour les électeurs
oui, d'accord. Oui, je comprends.
Vous
allez
mettre dans ce programme.
Vous le savez, hein, le programme du RN, il a été explicité partout. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Voilà. Maintenant, c'est certain, nous aussi, il y a certaines catégories richissimes qui devront payer plus d'impôts. Mais vous savez, le problème, c'est que ces gens-là ont les moyens souvent de cacher leur capital. Hein. Soit ils ont des entreprises multinationales, soit ils ont des... C'est pas facile de prendre l'argent aux très riches. Et dans ce cas-là, le risque, c'est qu'on se reporte sur la classe moyenne.
Donc,
on l'a vu dans le passé.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette taxe sur les super profits, notamment l'impôt sur la fortune, ça ne sera pas possible.
Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais mon expérience m'a montré que souvent, elle s'applique surtout aux classes moyennes. Parce que les classes vraiment supérieures ont les moyens juridiques, d'avocats, etc., d'institutions internationales, de mettre leur argent à l'abri. Parce que les paradis fiscaux, ce n'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé, hélas. C'est terminé en Suisse, en Luxembourg, en Europe, mais c'est pas terminé dans le monde. Et je sais que les Amazon, tout cela, voilà. Et puis le risque aussi du SMIG très élevé, là, ça peut aussi, j'en parlais ce matin avec, en achetant mes croissants et mon journal avec le boulanger de Saint-Grépin, il me dit, moi, si je ne pourrais pas payer un SMIG aussi élevé, dans ce cas-là, je fermerai. Donc ça favorisera aussi Amazon, toutes les grandes boîtes, vous voyez, c'est... L'économie est compliquée. Moi, je ne suis pas économiste, donc j'en parle avec précaution, hein. Mais je sais que c'est compliqué, comme la médecine, comme beaucoup. C'est tout ce qui est science, qui n'est pas mathématique, tout ce qui n'est pas science exacte est compliqué.
On va revenir quand même sur la première question. Ce sont les retraites. Du côté du Front populaire, notamment, il y a cette inquiétude. Cela coûterait des dizaines de milliards d'euros de revenir à cette retraite à 60 ans avec 43 années de cotisation. Donc, cela augmenterait les déficits et donc cela réduirait les pensions sur plusieurs générations. Valérie Rossi.
Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le programme du Nouveau Front Populaire a été largement étudié et commenté par des économistes. Je pense que nous ne nous serions pas permis d'avancer ce genre de choses si ça n'avait pas été derrière bien calculé. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, il y a tout de suite, dans les premiers 15 jours, décrété l'état d'urgence sociale. Nous avons évoqué tout à l'heure uniquement le passage du SMIC à 1600 euros net, mais il y a bien d'autres mesures que nous souhaitons mettre en place dès les premiers 15 jours qui suivront les élections. Et ensuite, on passe dans une deuxième période pour lancer des mesures structurelles pour faire une grande loi sur le pouvoir d'achat. Et les retraites donc font partie de ce projet. Et nous, de notre côté, ce que nous souhaitons, c'est plus de justice fiscale. Donc globalement, les recettes viendront de ce biais-là.
C'est-à-dire plus de justice fiscale. Comment ça va marcher? Alors, les impôts, c'est aussi une préoccupation des Français, c'est une préoccupation des Hauts-Alpins. C'est quoi? Comment on amène cette justice fiscale?
Alors nous souhaitons, c'est très clair dans notre programme, nous souhaitons faire de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale une priorité, accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu à 14 tranches, il y en a 5 aujourd'hui, hein, et rendre la CSG progressive, rétablir un impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, renforcer avec un volet climatique, parce que là, ça nous semble d'une urgence primordiale. Hein. Nous avons un fort volet climatique dans notre programme, et ça fait partie des urgences à mettre en place et des sujets dont il faut vraiment s'occuper, se préoccuper.
Le Front populaire propose aussi de prendre en compte le RSA pour valider des trimestres en vue de la retraite. Ça n'incite pas forcément à sortir du dispositif du RSA.
Je ne crois pas. Effectivement, je suis d'accord avec vous, tout à fait, nous proposons ça. Mais c'est normal, enfin, je veux dire, les personnes du RSA, qui sont au RSA, aujourd'hui, elles sont accompagnées quand même. Moi, je travaille là-dedans, je travaille dans ce milieu-là. Nous accueillons des personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Nous les remettons sur le chemin de l'emploi. Donc, le RSA est une transition, est une transition. Donc, ces personnes qui se retrouvent au RSA n'ont parfois rien demandé. Elles ont des accidents de la vie. Et c'est une aide ponctuelle pour leur permettre de retrouver le chemin de l'emploi. Et il est normal que les trimestres de cotisation, enfin de perception, je veux dire, de RSA soient comptabilisés.
Passons au dossier économique. Selon France Travail, il y a dans les Hautes-Alpes 10 890 projets d'emploi. Pratiquement 66% ne sont pas pourvus. Dans le domaine de l'agriculture, ce sont 72% des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues, 53% pour l'hôtellerie-restauration, 61% pour la santé humaine et l'action sociale. Et cette question, Fabrice du Dauphiné Libéré.
Oui, la France a un taux de chômage de 7,5% au premier semestre 2024. Chez les jeunes, il est de près de 17%. Et malgré tout, comme vient de le dire Cyril, plusieurs secteurs peinent vraiment à recruter. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour ramener les gens vers l'emploi ?
Valérie Rossi.
Alors moi, clairement, encore une fois, je vous dis, je travaille vraiment dans ce secteur-là. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas bien formés. Donc, il faut les accompagner sur le chemin de la formation, leur offrir des formations spécifiques par rapport aux besoins du territoire et les secteurs que vous avez cités qui sont en tension. Donc, il faut vraiment accompagner ces personnes qui sont désireuses de se former. Et notamment les bénéficiaires du RSA dont nous avons parlé tout à l'heure, hein, pour info. Il y a aussi, moi je le vois aussi tous les jours, il y a aussi des personnes étrangères qui sont venues chez nous, que nous avons accueillies du mieux que nous avons pu, mais c'est encore pas suffisant. Et ces personnes-là sont en attente parfois de papiers, de légalisation de leurs papiers, pour pouvoir justement exercer et trouver un emploi, notamment dans la restauration, l'hôtellerie, etc. Donc ça aussi, pour nous, nous trouvons que c'est aussi, je dirais, un potentiel de travailleurs important à former, hein, à former et à leur donner la possibilité de travailler.
Et donc il ne s'agit pas de ramener les gens vers l'emploi, mais d'importer une nouvelle main-d'œuvre.
Non, les deux. Il faut accompagner les personnes qui aujourd'hui donc sont en attente d'emploi et qui pour une raison ou pour une autre sont en stand-by parce que elles ont peut-être des interrogations sur leur choix, elles ont peut-être pas assez de formation qui leur permettent d'obtenir, enfin de pouvoir, je dirais, répondre à un besoin local. C'est ce que je vous disais, il faut faire correspondre l'offre avec la demande. S'il y a besoin de personnel de santé, et Dieu sait s'il y en a besoin, eh bien il faut qu'on puisse proposer des formations, des sessions de formation qui arrivent à des diplômes et à des formations diplômantes pour que ces personnes puissent s'épanouir dans notre territoire. Les Hautes-Alpes ont besoin de ça.
Louis Albran, cette question justement, hein, il y a un besoin de main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on en fait ?
Il faut inciter, ramener les gens vers l'emploi avec des mesures fiscales et sociales et des directives qui encouragent les gens à travailler. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à aller travailler parce qu'ils voient leurs voisins qui gagnent autant en restant chez eux tranquillement. Et puis, alors là, je rejoins Madame Rossi, nous sommes contre l'immigration illégale, clandestine, mais nous sommes pour une immigration de travail. Les gens qui viennent ici avec des papiers, qui ont envie de travailler, soit des médecins, soit des ouvriers, on n'a rien contre l'étranger qui vient travailler en France. Et ça... L'Allemagne, d'ailleurs, vous avez vu, a fait rentrer beaucoup de... Merkel avait parlé d'un million en un moment d'immigrés. Et je vois qu'ils durcissent les lois aujourd'hui pour aussi eux se concentrer sur l'immigration de travail. Oui.
Donc des mesures incitatives en tout cas pour que ces métiers soient pourvus. Le SMIC à 1600 euros.
Non. Il y a d'autres mesures incitatives, des avantages fiscaux, des diminutions de charges pour l'employeur. Il y a toute une palette que les économistes connaissent bien.
Mais ces charges servent souvent aussi à payer d'autres choses,
oui,
notamment le système social en France.
C'est très délicat, l'économie. Il faut toujours, quand prendre une décision, voir les conséquences qu'elle a, etc. Oui. Mais on peut faire des économies. En France, par exemple, on donne trop d'argent à l'Europe. Hein. On peut diminuer la part qu'on donne à l'Europe.
Hein. Laquelle ? Quelle part ?
Ben, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais qu'on donne... On donne je ne sais plus combien de milliards par an à l'Europe. On peut diminuer un peu cette donation à l'Europe. C'est dans le programme du RN, d'ailleurs.
Et comment on fait pour en donner moins ? Il va falloir trouver des accords.
Eh bien, on dit à l'Europe, elle ne vous donnera pas plus. Hein. Et puis, vous savez, on tout se négocie avec l'Europe. Hein. On avait actuellement un président avec lequel l'Europe est devenue toute puissante, puisque vraiment, il était aux ordres de l'Europe. Hein. On se demandait même s'il ne projetait pas lui de devenir président de l'Europe, parce qu'il était... un europhile. Bon, moi je suis pas un eurosceptique, mais je pense que il faut garder quand même certaines priorités nationales dans les règles, dans les lois. Il faut pas que l'Europe décide de tout.
Donc tout est possible avec l'Europe.
Tout est possible en négociant, par exemple.
Sauf sur la convention de Berne.
Bon, la convention de Berne, c'est pour le loup, ça.
Eh oui.
Oui. Oui, c'est ben l'Europe. Ça, on peut... J'ai été attaqué par un patou il y a 3 jours en vélo.
On ne peut pas tout faire en tout cas avec l'Europe.
Oui, je sais bien. Mais l'Europe, il faut négocier. Et M. Macron nous a fait croire que l'Europe était toute puissante et qu'on n'avait qu'à s'aligner. Non, puisque là... Et moi, je lis dans les journaux étrangers, italiens, anglais, etc., que si la France commence à négocier avec l'Europe, l'Europe changera. Parce que si on se retire de l'Europe, la France, l'Europe est terminée. Hein. Donc on a un pouvoir de négociation.
Donc vous appelez à vous retirer de l'Europe.
Nous n'avons aucune intention de se retirer de l'Europe. Marine Le Pen l'a dit plusieurs fois, on reste dans l'Europe.
Donc c'est juste une menace qui est brandie et qui ne sera pas réalisée.
C'est pas une menace, c'est une négociation.
Alors justement, je parlais du loup, ce qui me mène à parler forcément de l'agriculture. Le territoire a été balayé par une crise agricole sans précédent, avec l'un des enjeux, c'est le revenu de la profession. Une activité agricole qui ne fait pas vivre les ménages. Seul un tiers de leurs ressources en provient. Le reste est issu d'autres activités, comme par exemple le revenu du conjoint. On ne vit plus de son activité agricole, surtout quand on est exploitant bovin, ovin ou arboriculteur. Alors comment on garantit aux agriculteurs de vivre de leurs revenus, Louis Albran.
Ça ne sera pas facile parce qu'il faut déjà
augmenter
le prix du lait pour les agriculteurs qui forment le lait. Ils ne vendent pas le lait assez cher. Deuxièmement, il faut, par les marchés, le Mercosur, etc., il faut un certain protectionnisme pour nos produits français. Hein, c'est une façon de protéger nos agriculteurs. Et puis, il faut continuer... L'Europe continue à les aider, mais actuellement on donne plus d'argent à l'Europe que l'Europe n'en redonne à nos agriculteurs. Là, il faudra négocier ça aussi. Hein.
Pourquoi le Rassemblement national a voté en avril dernier contre l'instauration d'un prix plancher en agriculture ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas suivi exactement les dossiers européens. Je ne sais pas.
Et pourquoi le Rassemblement national a voté pour la PAC 2023-2027 ?
Pour la PAC ?
Pour la PAC. Jordan Bardella l'a dit, c'est mieux que rien.
Oui, c'est ce que je vous dis. Ils sont pour le fait que l'Europe aide les agriculteurs. On n'est pas contre. Mais on voudrait seulement que on donne, je ne sais pas combien de 40 ou 50 milliards de plus que ce que les agriculteurs reçoivent. Là, il faudra aussi faire une péréquation, faire en sorte que... La France est un des premiers, financiers de l'Europe. Hein. On donne beaucoup d'argent à l'Europe.
Valérie Rossi, cette question.
Donc il faut qu'on retrouve notre argent.
Comment on garantit un revenu aux agriculteurs ?
Ce qui est certain, c'est que, surtout dans notre département, qui est quand même où l'agriculture a vraiment un poids, c'est qu'il est inadmissible que les agriculteurs ne puissent pas vivre de leur travail, que les retraites agricoles soient si faibles. Donc il faut absolument travailler sur ce sujet. À ce jour, moi, je ne peux pas vous dire exactement les propositions concrètes, mais c'est un sujet sur lequel il faut absolument travailler.
Et vous avez une idée quand même, parce que vous êtes attendu par la profession agricole sur ces mesures. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous défendrez demain si vous êtes élu à l'Assemblée nationale.
Eh bien, il faut revoir les dispositions de la politique agricole commune, de façon à faire en sorte aussi que les produits que nous produisons ici, enfin, soient vendus à leur juste prix. Donc, il faut retrouver une justice dans les prix, une justice. Effectivement, vous avez parlé du prix du lait. Ça, c'est un sujet sur lequel il faudra. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Un sujet sur lequel il faudra absolument travailler. Donc, il faut privilégier les circuits courts, il faut valoriser toute la production que nous avons ici dans les Hautes-Alpes, par exemple, hein, ne serait-ce que pour les Hautes-Alpes, mais ça se décline sur l'ensemble du territoire.
Les accords de libre-échange ?
Aussi, bien sûr, il faut les revoir.
Même s'ils sont porteurs ?
Eh bien, il faut voir exactement, faut reprendre tous ces accords et voir dans quelle mesure ils sont porteurs pour nos agriculteurs français.
Louis Albran.
Si vous permettez, sur l'Europe aussi, il faut que les normes de l'Europe ne soient pas une entrave à nos agriculteurs et même à nos communes. Hein. Je parlais hier avec le maire de mon village. Là, maintenant, l'eau, par exemple, on va être obligé de la faire gérer par d'autres. Et puis, il y aura de la javel dans de l'eau, là, alors qu'on a des sources très pures. Et sans arrêt, il y a des normes européennes qui compliquent la vie des gens. Par exemple, aujourd'hui, les prisons, un domaine que je connais très bien. Il y a une norme européenne qui interdit toute fouille au parloir. Donc si je vais voir un copain prisonnier, je peux lui porter un pétard, je peux lui porter de la drogue, je peux lui porter des téléphones, ça passe. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces deux pauvres gardiens de la paix là, qui ont été assassinés. Parce que, voilà. Donc l'Europe a ça de danger, c'est qu'elle devient supranationale. Nous, on est plutôt pour l'Europe des nations, c'est-à-dire on fait l'Europe, on continue, etc., des programmes communs. Mais les États gardent un peu de possibilité de légiférer pour les décrets, etc., pour l'agriculture comme pour le reste.
Je reviens quand même sur cette question sur les traités de libre-échange. On revient dessus. Les chiffres pour la France, pour le CETA, le libre-échange avec le Canada, appliqué à 90% depuis 2017, il a permis une augmentation des exportations françaises de vin, de fromage et de céréales. Valérie Rossi.
Moi, écoutez, je n'ai pas connaissance des chiffres dans les détails, mais voilà. Moi, je pense qu'il y a vraiment quand même tout un grand plan agricole qu'il faut voir, peut-être une grande loi sur l'agriculture. Enfin, il faut revoir effectivement ce sujet, je vous dis, de façon à ce que nos agriculteurs puissent vivre clairement de leur travail, quoi, et être rémunérés à leur juste prix pour ce qu'ils produisent.
Et dignement, parce qu'il y a beaucoup de suicides d'agriculteurs. On ne parle pas que des Hautes-Alpes en France.